Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours par l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va comme quelqu'un qui a gagné un shake-up, quoi. Ça va bien.
Ah oui, carrément. Allez, ouais. Tu balances les résultats du mercato. J'allais te demander comment ça va. Est-ce que tu as repris un rythme?
Non, oui, j'ai repris mon petit rythme tranquille. Le retour à la vie normale, à la vie hors WrestleMania est un peu bizarre, mais bon, écoute, voilà, il va falloir s'y faire. Hein. C'est à l'année prochaine maintenant, donc.
Eh oui, mais entre temps, d'ici là, on nous propose un peu de changement. WWE propose un reboot. Une nouvelle saison commence, on peut le dire ainsi. Puisque dans cet épisode de WWE SmackDown Live, le show bleu rafle la mise alors que le mercato des superstars continue avec les plus gros transferts de la saison. On se croirait au foot, au basket, au tennis, au ping-pong avec les gros transferts. Hein. C'est AJ Styles qui nous révèle, il arrive, c'est lui qui ouvre le show, ça fait du bien, le champion est là. Et il nous révèle que Nakamura n'est pas un artiste mais un con artiste, un arnaqueur. Hein. Mm-hmm. Il a dévoilé ses vraies couleurs à WrestleMania, il nous a gâché, on l'a bien vu, on l'a bien entendu, le vrai Dream Match, celui que la WWE nous avait vendu là pendant des mois, des semaines, et ben Nakamura nous a enlevé ce plaisir, et que contre Daniel Bryan, une fois de plus, il est venu intervenir et qu'il a gâché un autre Dream Match, justement celui contre Daniel Bryan. Bref, Nakamura... Grosso modo, c'est pas lui qui fait les Dream Match, c'est lui qui les gâche. Il mérite un petit payback, une petite vengeance, une petite punition. Donc AJ Styles est visiblement chaud là pour lui mettre une petite correction, même si Nakamura ne viendra pas tout de suite. Visiblement, il a peut-être pas... c'est Aiden English et Rusev qui débarquent. C'est le Rusev Day, on a le droit évidemment au chant de Rusev Day, par Aiden English qui tacle hein, la ville et fait un petit sondage, il demande quel jour on est, évidemment, on s'en doute, on est le Rusev Day. Et comme Nakamura ne daigne pas débarquer, AJ Styles, le champion combatif, propose un match right now. Et donc on a un 2v2 entre Daniel Bryan, c'est pas un 2v2, on a AJ Styles qui affronte Rusev. Pourquoi j'ai mis 2v2 ? C'est le 2v2, on l'aura un peu plus tard.
Spoiler.
Alors, le match justement, il va pas durer très longtemps, puisque Aiden English intervient très rapidement. Visiblement, il n'avait pas envie que le match continue. Déclenche le passage à tabac. Mais le chevalier blanc, la chèvre blanche, le bougoulant, Daniel Bryan débarque. L'ancien GM, ça y est, hein, c'est fini maintenant. Il fait partie de, c'est un catcheur comme les autres. Il arrive en courant pendant les matchs pour sauver les autres gentils. Donc Daniel Bryan fait déguerpir les affreux loulous. Et du coup, on nous bookera un 2v2. Ce sera notre main event de la soirée. Puisqu'on a une petite séquence backstage avec Paige, la nouvelle GM, hein, qui dans une impeccable imitation anglaise de Teddy Long, officialise donc ce fameux tag team match playa pour la soirée. Shane McMahon qui est toujours là visiblement, valide, il applaudit.
Oui, c'est pas ce qu'il fait là, mais
bon voilà, pour quelqu'un qui démissionne, on le voit beaucoup. Et il rappelle que le Miz est transféré sur demande de Daniel Bryan, on l'a appris la veille dans Raw. C'était le dernier vœu de Daniel Bryan pour son départ. Et donc on célèbre toutes ces bonnes décisions sur quelques petits pas de danse. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite intro, et juste après on parlera de ce premier transfert de The Miz.
Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé cette petite intro, c'était bien, tu l'as dit, on commence sur AJ, le champion, ça fait du bien. Moi en fait ce que j'ai bien aimé, cette intro est assez représentative de tout ce qui va se passer après derrière, c'est que c'était le shake-up, certes, mais on a presque oublié en fait, au profit justement de SmackDown, du show, des histoires, on a presque oublié que c'était le shake-up un peu parce que finalement on arrive et puis on re-rentre dans les histoires. C'est AJ qui vient nous parler de Shinsuke, c'est qui est-ce qui vient l'interrompre, c'est Rusev qui du coup met en place, on sait pas, potentiellement un programme ou et puis derrière on parle On voit les GM qui bookent le main event. Donc en fait, c'est le shake-up, mais en même temps, voilà, SmackDown continue sa vie. Et je trouvais que c'était pas mal parce que ça, il y avait un côté, on le verra un peu pendant la suite du show, moins forcé, moins démonstratif que à Raw où c'était vraiment tout pour le shake-up et vas-y qu'on annonce. Et c'était que des interventions, des promos et tout. Ben voilà, je trouvais qu'il y avait un côté un peu plus organique dans ce début de show qui était pas mal. Donc j'ai bien aimé cette intro. Et puis ben voilà. AJ Styles rentre un peu dans le vif du sujet là, puisque la semaine dernière il avait dit Nakamura, c'est pas mon problème, là je vais me concentrer sur ceux qu'en valent la peine là, Daniel Bryan. Bon bah il a regâché, il a remis un coup dans les valseuses la semaine dernière, donc du coup là cette semaine, cette fois ça suffit, il adresse la situation. Et puis bah voilà, et puis bah après le match, on verra la suite au main event. Là c'était histoire 2, mais ça me fait plaisir de voir Rousseff impliqué avec AJ Styles, donc tout va bien.
Mais oui, Rousseff n'est pas oublié. Bon, parlons du Miz, si tu veux bien. Le transfert du Miz, on n'aura pas mis longtemps hein, pour remettre sur la table la rivalité célèbre qui remonte des anciens temps, quoi.
Oh là là,
viscéral hein, entre Daniel Bryan et le Miz. Donc bah écoute, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour y arriver là, mais là il n'est pas là hein, ce soir. Il nous fait une petite promo vidéo avec sa chair et tendre. Hein, il nous interpelle. Il explique d'ailleurs en disant à Daniel Bryan, comme ça tu m'interpelles sur Twitter, hashtag punch his face, hein, puisque c'est comme ça que Daniel Bryan a interpellé le Miz. Pas de bol, il dit, je suis pas dans ce trou de Providence, puisqu'on est dans la ville de Providence, mais à Los Angeles avec sa famille. Il a posé son congé pat, hein, son congé paternité, le Miz. Et on voit la petite Monroe Sky, qui est toute mimi, hein, 2 semaines, est déjà une star comme papa.
Déjà une star, c'est ça.
Ça, là-dessus, je pense qu'on la reverra plus tard. Alors, les packages vidéo, si jamais elle suit le même chemin que son père.
Ça va être quelque chose. Hein.
Je pense que là, Nicolas, il peut retourner sur les bancs de l'école. Il vient de se faire battre à plat de couture. Et il prévient, d'ailleurs, le Miz prévient Daniel Bryan, que s'il le troll encore une fois, il lui bottera le cul. Et t'as Maryse qui lui fait « Language !»
Ouais, attention.
« Surveille ton langage, attention les gros mots. » Et les deux terminent en disant que ce sera en somme. Donc, ça y est, hein, le Miz va reprendre sa rivalité avec Daniel Bryan. On n'attend pas, hein. On n'attend pas. Daniel Bryan, on ne sait pas trop encore. Ok, ils l'ont remis sur le ring, mais il faut lancer les chevaux et lâcher les chevaux et y aller hein, sur cette rivalité-là.
Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut, il faut y aller. Bon, après, on va voir hein, qu'il y a peut-être quelques petites embûches, quelques cailloux sur le chemin de cette rivalité. On va voir, mais oui, bah écoute, c'est ce pourquoi on rêvait de voir le Miz retourner à SmackDown, et c'est en partie pas que, hein, mais c'est pour ce pourquoi aussi on désespérait de voir peut-être un jour Daniel Bryan revenir sur un ring, parce que c'est peut-être pas non plus le dream match le plus fou qui est maintenant possible avec le retour de Daniel Bryan, mais c'est en tout cas une des rivalités les plus attendues par le teasing qu'il a pu avoir par le passé, cette promo absolument incroyable qu'il y avait eu à Talking Smack à l'époque dorée de cette émission. Donc, très content de voir la flamme se rallumer entre les deux. Mais justement, intéressant, ce qu'on va voir, ce qui s'est passé dans la suite de l'émission est assez intéressant parce qu'on va peut-être pas non plus s'y précipiter, tête baissée trop vite. Et ça, c'est pas mal, ça.
Non, effectivement, comme tu l'as dit, des petites embûches qui vont donc se mettre sur le chemin de Daniel Bryan en direction du Miz. On y reviendra au main event. Une autre grosse surprise, enfin moi j'ai trouvé, Shelton Benjamin débarque, mais il débarque tout seul. Et on apprend que Chad Gable a quitté l'écurie bleue et que donc il a rejoint, tu me dis si je me trompe, hein, parce que je ne sais même pas si c'était vraiment officialisé, que Chad Gable est dorénavant à Monday Night Raw.
Si, mais ça avait été annoncé un peu après Raw, je crois que quand sur le site, on pouvait voir le récap des transferts, et il était un peu dans la charrette des gars qui n'avaient pas été annoncés. Donc en fait, on le savait avant SmackDown, mais on le savait sans le savoir, fallait vraiment aller chercher l'info pour le savoir, donc ça restait une petite surprise quand même.
Donc du coup, bah, Benjamin lui souhaite le meilleur sur Twitter. Enfin, il y avait un message de Twitter de Shelton Benjamin qui justait le meilleur. Mais là, Shelton nous révèle que son compte Twitter, comme celui de nombreuses stars qui n'assument pas leurs propos, a été hacké. Et que Shelton Benjamin jamais n'aurait écrit ça. Hein. C'est un, je suis un audio connard et Chad Gable lui doit tout et il n'avait pas besoin de Chad Gable. Chad Gable avait besoin de lui. Et puisque comme c'est un connard et que c'est un connard qui veut une opportunité, eh ben il va la voir et on entend la musique de Randy Orton retentir. Hein. Il est en quête de challenge. Shelton Benjamin, c'est Randy Orton qui s'approche. Et soudain, une autre musique retentit, c'est celle de Jeff fucking Hardy, qui donc débarque à SmackDown. Et lui, il ne vient pas seul, contrairement à Benjamin, il vient avec sa ceinture de champion US. Et oui. Donc c'est le hold-up qui a été fait, puisque Jeff Hardy, cette ceinture, il l'a eu à Raw en battant l'ami Jinder Mahal qui lui avait fait le transfert et il revient à SmackDown le lendemain avec la ceinture. Donc là, quand je dis que SmackDown a gagné, c'est qu'effectivement là on se retrouve, même si on aime beaucoup Jinder Mahal, évidemment.
Nous respectons énormément Jinder
et je pense qu'il va beaucoup apporter à Raw. Je comprends sa décision d'aller dans le show rouge. Il faut qu'il a battu tout le monde, hein.
Voilà, je comprends, c'est normal.
Et c'est vrai que la bonne opération, c'est que on récupère quand même la ceinture et avec Jeff Hardy qui est probablement qui est une méga star, hein, ça il y a à n'en point douter, et qui est redevenu, qui a fait, en fait on m'a expliqué qu'il avait été double Grand Slam champion en remportant cette ceinture US.
Dans belle opération pour lui.
Ancienne formule et nouvelle formule. Donc ouais, belle opération pour lui. Et du coup, un petit match entre les deux. Un match assez serré. Shelton Benjamin, il se laisse pas faire. Hein, mais à la fin, évidemment, c'est la victoire de Jeff Hardy dans un match où on s'est rendu coup pour coup. Shelton Benjamin a vraiment déroulé un catch assez agressif qu'il nous avait déjà un peu montré, hein, quand il faisait équipe avec Chad Gable. Et Jeff Hardy donc qui remporte la mise. Quel coup ils nous ont fait là avec Jeff Hardy, mais c'était plutôt malin.
Et oui, on s'attendait plus peut-être à un échange de ceintures entre les deux émissions. Pourquoi pas voir le champion intercontinental venir à SmackDown. Et c'est vrai qu'avec ce changement de titre qu'il y avait eu la veille, les cartes étaient un peu rebattues parce que c'était un peu, il y avait une chance sur deux, quoi. Soit on avait Jeff Hardy, soit on avait Seth Rollins a priori. Écoute, moi je suis pas mécontent d'avoir eu Jeff Hardy dans cette affaire parce que ça apporte une figure qui est quand même, SmackDown c'est un peu son show à Jeff Hardy, hein. C'est vrai que dans la décennie dernière là, c'était son émission, c'était la top star, le méga top face ultime de SmackDown. Il jouit toujours d'une popularité assez incroyable en solo. Moi je suis pas mécontent, je suis pas un grand fan personnellement du trip Woken et compagnie, donc c'est vrai que s'il peut s'en dispenser Jeff Hardy, moi ça me va bien. Et puis ça fait que c'est une sacrée addition parce que ça donne une consistance à la mid-card de SmackDown qui est quand même assez dingue, parce que moi c'est vrai que je suis potentiellement très impatient de voir Jeff Hardy, enfin la combinaison Jeff Hardy en solo versus tous les mecs maintenant qu'il y a à SmackDown, on va pouvoir faire la liste. Donc c'est un mec qui est aussi à l'aise en mid-card que pour des feux temporaires un peu de main event, pour venir dépanner et apporter du star power et des feux de sympa dans la top card. Donc c'est bien évidemment c'est un petit hold up, quoi. C'est vrai que là on reprend la ceinture plus Jeff Hardy, c'était très très beau. Et puis une belle petite surprise, joliment amené ce coup de la fausse arrivée de Randy Orton. Orton qui faisait grise mine. Alors on n'a pas eu plus de news.
Ouais. Non. Mais il est parti penaud, la queue entre les jambes. Il faisait grise mine.
Ouais.
Il était.
Moi si j'étais. Ouais.
Il était. Si salut. Jeff Hardy, il était content de le voir, mais pas trop non plus, quoi.
Ouais. Ouais. C'est vrai que si j'étais Jeff Hardy, je regarderais derrière moi peut-être la semaine prochaine parce que je. Ouais, je suis pas. On fait pas ça à la vipère, hein, donc attention.
Ouais. Non. Mais ouais, mais si tu regardes derrière toi, le RKO il viendra de devant. Donc. Tu veux pas, en fait. Tu veux pas.
C'est très compliqué.
C'est très compliqué. Une fois que Randy Orton a apporté son évolution sur toi, attends-toi juste à te faire RKO 3 ou 4 fois. Mais effectivement, là, c'est le beau hold-up, un bel atout supplémentaire dans la manche du show bleu. On applaudit là ce petit tour de passe-passe qui a été fait.
Bravo Paige pour son
bravo
premier
Paige,
gros coup
effectivement,
là.
Ouais. Un gros coup pour l'anglaise. Allez, on continue, on rejoint la scène tag team où là aussi vous allez voir, vous l'avez peut-être déjà vu, mais on va faire l'inventaire. On a fait, alors je sais pas si c'est un hold-up, mais là c'est la rafle. Je crois qu'on a tout dévalisé, je pense. Mais avant ça, oui. On a un petit match entre Jimmy Uso et Luke Harper. Quand je dis petit, c'est qu'il n'a pas duré trop longtemps. Je sais même pas s'il a atteint la minute. Le frangin Uso hein, qui se prend une grosse fessée malgré la vaillance hein, et l'aide de son frangin qui était aux abords. Jay qui frappe avec un coup de marteau. Hein. Ça y est, on a les premiers coups de marteau là qui arrivent. Mais c'est insuffisant et les frangins marteau s'apprêtent alors à tuer justement à coup de marteau les Uso suite à la victoire expéditive. Hein, c'est Luke Harper qui met une grosse close line à son adversaire et puis après c'est l'heure arrive de les détruire une bonne fois pour toutes. Et là on a la musique et l'intervention de Naomi qui implore la grâce, la pitié. Auprès des frères Marteau pour qu'il ne tue pas son amant. Bon, une séquence peut-être un petit peu gênante quand même. C'est un peu bizarre là. C'est toujours un peu bizarre.
Surprenant.
Ces petites amies ou ces épouses qui interviennent pour demander aux adversaires de leur ami de les épargner. C'est toujours un peu étrange parce que les mecs se mettent sur la tronche non-stop.
Oui.
Et là tout d'un coup
soudainement il faudrait qu'on arrête tout là. Ouais, c'est vrai que
c'est un peu étrange,
toujours un peu bizarre ces interventions, surtout que ça, ouais, c'est vrai que ça vient un peu de nulle part parce que bon, enfin écoute Swatch, je sais pas, je suis pas trop les shows Total Diva. Peut-être que certains de nos auditeurs, je sais pas, il se passe des choses, il faut remettre Naomi un petit peu avec son mari, je sais pas trop. C'est vrai que voilà, bon, moi ça sonne un peu faux. J'ai pas trop aimé ce passage parce que on était voilà, les Uso contre les Bludgeon Brothers, là ça c'était de la grosse castagne là, les Bludgeon Brothers qui défoncent tout, et puis là soudainement on vient ajouter une dose de pitié là avec Naomi qui, je sais pas, ouais, ça a pas trop fonctionné. C'est vrai que c'était ça sonnait un peu faux ce truc là. C'était la petite erreur du, ouais, la petite fausse note du show pour moi. J'ai pas trop vu l'intérêt, surtout qu'on développe pas grand chose du côté des Uso, et puis on commence à tourner en rond là, parce que du coup c'est vrai que les Bludgeon Brothers, bon bah voilà, ils beat down, mais si jamais on est en train de nous montrer que bah finalement les Uso ils se font taper sur la tronche et qu'il y a même besoin de Naomi pour venir pour qu'ils se fassent épargner, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure tournure d'événement à présenter.
Non, ouais, c'est toujours un peu étrange. C'est, enfin, vraiment, tu vois que on tourne la page et tout d'un coup, les rapports de force sont totalement déséquilibrés. Effectivement, on avait les Uso qui tenaient plutôt bien tête aux frères Marteau, en tout cas, qui avaient leur malice qui leur permettait de leur tenir tête, hein, même si voilà, tu tiens pas tête très longtemps face aux frères Marteau. Mais voilà, et là, comme tu le dis, tout d'un coup, ils sont très affaiblis. Et...
ouais, ils sortent de là quand même très affaiblis, moi je trouve.
Ils se font vraiment là passer, rouler dessus, et en plus, effectivement, il y a besoin de l'intervention de Naomi, de la petite amie d'un des frangins pour arrêter les frais.
Ouais.
Bon, pas convaincu. Puis Naomi, elle pourrait avoir autre chose à faire quand même avec, je sais pas, avec son petit trophée. Elle a peut-être quelque chose à faire valoir.
Bon, bah, alors, oui.
J'annonçais que le SmackDown avait fait le hold-up également sur la division tag team. Si tu veux bien, on va faire l'inventaire de toutes les équipes qui ont rejoint. Alors, celles qui nous ont quittés, ils en ont parlé dans Catch Pro, évidemment. On a perdu Breezango, The Ascension,
oui.
Je crois que c'est tout, il me semble, en tag team pur qu'on connaissait, quoi. Oui, Breezango, ça fait...
D'une certaine manière, on a perdu American Alpha 2, parce que ça s'est cassé, ouais.
Alors, Breezango, c'est vrai que c'est un petit peu triste, mais bon, on les voyait plus, et puis là, au moins, ils ont eu un match, et puis ils ont gagné le match, alors, bon, bah, peut-être que ça leur fera du bien, et puis voilà, il faut savoir partager les bonnes choses, hein, ça, il n'y a pas de problème.
Oui.
Du coup, on s'est dit, allez, on va reprendre, on va aller un petit peu se servir. Alors, on appelle Mel. Un package promo des Good Brothers, donc hein,
oui.
par les deux tiers du Bullet Club, donc les Good Brothers qui rejoignent SmackDown. On a une promo de The Bar qui ont répondu à l'appel du défi, eux qui ont décliné la division tag team, décimé la division tag team à Raw, et oui, qui ont obtenu 4 titres. Alors on a les 4 ceintures, enfin 4 fois les championnats qui s'affichent, hein, les ceintures. Donc c'est vrai, là c'était plutôt bien amené. Effectivement, ils ont tout à gagner, hein. On a quand même des grosses affiches là, des gros potentiels contre les Usos, les New Day. On sait que les trois là, ils cherchent depuis pas mal de temps. Et on a également, alors je vais mettre ça dans Tag Team. Non, tu sais quoi, on en parlera après pour les montées NXT.
D'accord, on en parlera après.
On en parlera après. Et backstage, on a une petite séquence avec les New Day. Les New Day sont toujours là, il y a pas de problème. D'ailleurs, c'était assez marrant, ils tombent sur R-Truth qui célèbre son arrivée à SmackDown avec le Perfect Ten. Mais il y a un problème, alors Truth croit être à Raw, en fait. Et du coup, t'as une idée, fait, non, mais attendez, t'es pas à Raw. Et là, donc la fête c'est est finie. Drôle. Ici, c'est Tuesday SmackDown Live. Et du coup, Truth repart tout bête en disant à demain, les gars. Du coup, bon, voilà, on retrouve le Truth complètement à la masse qu'on a connu il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc, la division tag team de SmackDown, qui était déjà un petit peu la crème de la crème, hein, c'était un petit peu l'arme forte du show bleu. Bah là, je crois que, est-ce que ça sert encore de regarder la division tag team de Raw quand on voit ce qu'on a là?
Je suis pas sûr, hein. Non, bah là, évidemment, on a récupéré The Bar, c'est super, enfin voilà, super équipe. Moi, j'espère qu'ils vont rester ensemble et qu'ils les amènent pas à SmackDown pour éventuellement les séparer peut-être après, parce que c'est vrai peut-être qu'il y aura embouteillage, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'équipes de qualité maintenant, il va falloir trouver des programmes pour tout le monde, donc à voir. Moi, j'espère qu'en tout cas, c'est pour qu'ils restent ensemble, parce que ça marche vraiment très bien. Donc c'est une super nouvelle, je m'y attendais pas du tout à The Bar.
Ouais.
Et les Good Brothers, ça c'est pour moi, c'est le prototype, c'est exactement le genre d'équipe qui avait besoin d'être échangée. Donc pour moi c'était quasi évident qu'il viendrait. J'attendais une autre équipe qui a le même profil que les Good Brothers, c'était The Revival. Ouais, voilà, moi je pensais vraiment qu'on allait les avoir aussi, parce que voilà, ces deux équipes-là, pour moi, c'est des équipes qui ont besoin d'un reboot, en fait, de repartir un peu de zéro avec des histoires qui repartent bien. On les repackager, mais en tout cas les relancer comme des menaces, ce qui a été très bien fait par le petit package vidéo, hein. C'était pas ils étaient pas avec leurs blouses blanches à faire les docteurs aux heures sombres de leur feutre contre le New Day, ou à dire des conneries ou à dire nerd comme ça et tout. Là c'était deux gros badass, c'était des légendes, ils ont dit ouais, on a gagné des titres partout dans le monde, on est 4 fois champion, donc voilà, ils arrivent en mode on est des darons et on va tout casser. Et donc ça c'est pas mal, parce que il fallait un trade un petit peu pour ce genre de discours, parce qu'à Raw ça passait plus. À Raw c'était des comics, c'était des rigolos, on n'y croyait plus. Donc c'était exactement ce qu'il fallait. Bon, moi je pense que voilà, The Revival aurait été peut-être pas mal. On avait peut-être pas forcément besoin de The Bar, qui est une équipe pour moi au profil, tu sais. Donc comme ils essayent de pousser les Bludgeon Brothers, comme il y a déjà les Usos, le New Day, je me dis c'est peut-être trop, et The Revival aurait peut-être eu plus de cartes à jouer que The Bar. Mais bon, je peux pas me plaindre, je suis très très content d'avoir Sheamus et Cesaro, donc c'est sûr que là la division tag team c'est le feu d'artifice là. Ouais. Et ouais, puis c'est pas tout, on va en parler aussi après.
Ouais ouais, c'est pas tout. Eh ben écoute, on va en parler dès maintenant, puisqu'effectivement allez hop, c'est parti. Hop, j'ai fait tomber un truc. Hop, Sanity. Hop. Sanity, on les attendait.
Et oui, on les attendait
au SmackDown du lendemain. Eh ben non. Alors Sanity, on les aura pas vraiment vus ce soir. Ils ont été annoncés SmackDown. Durant que 2 heures, SmackDown ayant en fait une grosse rafle là, effectivement il n'y a pas eu du temps d'antenne, et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reprocher, parce qu'il y a des grosses annonces quand même qui sont apparues dans des petites vignettes. Mais toujours est-il que Sanity arrive, mais c'est pas Sanity, ils sont sans Nikki Cross ne monte pas avec, et ouais, c'est le truc qui fait jaser un petit peu. Alors bon, on est d'accord, on est content, Sanity qui débarque à SmackDown, ils auront toute leur place. 2, effectivement, ça va rajouter encore de la tag team, parce que je suis pas sûr qu'ils vont jouer vraiment soit ils vont jouer la carte de la faction, ou est-ce qu'ils vont jouer la carte vraiment de l'équipe, c'est-à-dire qu'ils vont affronter et rejoindre hein, la division tag team, ou alors jouer la carte de la faction, et donc avec peut-être un leader mis en avant. Ça, c'est à voir. Ce qui va se passer, on aura sûrement la réponse la semaine prochaine. Moi, je veux savoir, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que c'est pas un peu dommage de nous avoir privé d'une arrivée de Sanity en live, que ce soit pour casser la gueule ou sauver des gars ou juste faire une promo, plutôt que de cette petite c'est une vignette quoi, avec la gueule des trois bonhommes et rendez-vous la semaine prochaine.
Donc ça, c'est ta première question.
Ça, c'est ma... Oui.
Deuxième viendra après. Alors non, moi ça m'embête pas trop. Je pars du principe que si ça a pas été fait au SmackDown post WrestleMania, à la limite ça me choque pas. Éventuellement une promo ça aurait pu être pas mal, mais en tout cas une apparition live ça me choque pas parce que très honnêtement, bon, on est tous très contents de voir Sanity arriver, mais c'est pas non plus l'arrivée blockbuster, faut pas trop s'enflammer, c'est super monté, moi je suis très content et je pense qu'on va s'éclater. Voilà, l'arrivée au SmackDown post WrestleMania aurait assuré une pop énorme, mais au final tout le reste de l'année devant d'autres publics, je suis pas sûr que l'impact aurait été aussi gros. Et puis aussi notamment, il faut peut-être aussi voir le côté positif de la chose, c'est que ils ont peut-être non plus, enfin voilà, il y avait déjà pas mal d'histoires, pas mal d'écritures pour ce SmackDown. Peut-être que Sanity n'avait pas, peut-être ils ont pas encore de programme bien défini pour eux. Ils vont peut-être faire une arrivée un petit peu lente, à monter tranquille, parce que pour l'instant le focus est sur les Bludgeon Brothers qui sont un peu dans le même registre entre guillemets. C'est des gros destructeurs, un peu sombres, machin. Donc le focus étant déjà sur eux, s'il y a pas vraiment de programme très très clair pour Sanity, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt à les faire arriver et défoncer quelqu'un juste pour le principe. Peut-être garder ce premier gros impact pour vraiment quand tu auras une vraie histoire. Peut-être qu'il y en a pas, il y en a pas encore. Ou peut-être que la semaine prochaine, quand le spotlight sera moins sur tout ce qu'on a pu voir, Daniel Bryan, AJ Styles, Shinsuke et tout ça, bah peut-être qu'il y aura du coup une storyline qui va se développer pour eux. Et là, l'arrivée sera plus justifiée. Donc, écoute, c'est pour ça, ça m'a pas choqué. Je trouve que c'est plutôt prudent. SmackDown joue ses cartes tranquillement. Ils ont énormément de qualité à distribuer, donc ça me franche pas.
En fait, je suis frustré quand même. Je suis frustré parce qu'effectivement, c'est quand même j'aime bien le.
Je suis frustré pour autre chose, ce sera ta deuxième question, je pense.
Non. Oui, alors il y a deux choses frustrées, mais je reste sur cette arrivée là que. Enfin, je trouve vraiment que l'impact aurait été vraiment super sur avec une arrivée d'une telle faction en live, sans forcément d'annonce. Là où effectivement le problème est sur le timing, c'est comme tu le dis, le bon timing c'était il y a une semaine. Et d'ailleurs, je suis assez étonné que c'est peut-être presque un reproche que je fais, c'est le shake-up. L'idée, c'est les transferts entre show rouge et show bleu. Et on est encore là en train de faire monter des gens de NXT pendant le shake-up. Et du coup, alors ça rajoute un peu de diversité dans, il n'y a pas que des transferts, voilà, dans les montées, dans le changement des rosters. Mais on se retrouve avec, du coup, une masse assez importante d'arrivées à gérer. Et on voit que là, c'est l'embouteillage, quoi. C'est l'embouteillage entre le Raw et le SmackDown du lendemain, le Shake Up qui est une semaine après.
Et oui.
Du coup, on est un petit peu embêté. On verra d'ailleurs après pour une autre montée d'une méga star de NXT qui est pareil, a été annoncée via une vignette vidéo. Mais voilà, moi j'aurais aimé limite qu'ils attendent un peu plus longtemps, toi, qu'ils attendent encore quelques semaines pour les faire monter. Sans forcément nous prévenir et en fait c'est assez old school finalement, on est plus trop habitué
c'est la vignette,
la fameuse vignette, c'est vrai que ça se faisait beaucoup hein,
ça se fait plus trop, c'est vrai,
et on était plus habitué, mais ça c'est l'effet NXT à démonter de gens qu'on connaît, et du coup c'est vrai que où on n'a pas forcément besoin de packager, sauf évidemment quand on est un petit peu dans le creux. Alors peut-être que ce SmackDown là dans une ville qui est pas remplie de smart qui suivent NXT, mais ça peut donner un challenge supplémentaire, toi tu peux comment réussir à faire popper ou faire réagir la foule avec une arrivée d'une nouvelle faction sans avoir préalablement présenter à qui c'était, etc. Surtout qu'ils ont une gimmick assez, ça c'est Guillaume qui le dit, effectivement, assez chaotique, toi, de rébellion, etc. Donc,
ouais.
Pas forcément besoin qu'on les annonce en bonne et forme.
Ouais, on verra ce que l'avenir réserve pour Sanity, mais c'est vrai que si jamais l'idée de leur première feud, c'est de jouer la carte de la faction et d'affronter, par exemple, le New Day, et bah du coup, on pourra repenser au SmackDown post-WrestleMania, se dire, c'est vraiment dommage de pas les avoir fait débuter à ce moment-là dans le match pour le First Contendership, les New Day contre les Usos, et de les faire venir casser la gueule du New Day, un truc comme ça pour lancer le truc et avoir un impact de malade, parce que là ils auraient une pop de monstrueuse et tout et machin. Donc à ce moment-là, si le endgame un petit peu c'est ça, c'est très dommage. Si jamais si jamais il y a pas vraiment de programme et tout, moi ça me choque pas que pendant 2-3 semaines il y a des vignettes ou des trucs comme ça pour leur annoncer leur arrivée et qu'ils prennent leur temps.
Ouais, non ça peut marcher hein, la vignette. Hein. Ou alors une des raisons est peut-être aussi, je ne sais pas. Alors ça c'est ma deuxième question. L'absence de Nikki Cross visiblement de la faction dans la montée dans le main roster. C'est vrai que si tu les faisais monter arriver au SmackDown du lendemain, sans Nikki Cross, peut-être que les gens seraient dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ce bordel, où est Nikki Cross, etc.
Alors, ouais.
Visiblement, j'avais lu qu'elle avait été blessée, peut-être pour ça qu'on la voyait plus trop à NXT. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est quand même frustrant de pas avoir Nikki Cross monter avec tout le reste du gang, là, elle qui a apporté clairement était la petite plus-value là de la faction de par son gimmick, enfin sa personnalité complètement barrée et les interactions qu'elle avait aussi avec les trois autres Golgoth là qui apportaient vraiment du piment à cette faction. Ça c'est peut-être un petit peu dommage.
Ouais. Non, alors ça c'est par contre c'est la cata, c'est le truc que j'ai pas compris. Je garde espoir. Je ne perds pas espoir mais pour moi c'est incroyable. Je me dis c'est peut-être ça la surprise de Sanity, tu vois, quand ils vont arriver, peut-être que ça va être Nikki Cross en plus, parce que qui du coup fera popper, enfin moi pour moi c'est l'âme de cette faction, c'est vraiment c'est l'atout qui fait que cette faction est top, c'est le charisme et le personnage de Nikki Cross qui est top. Je comprends pas pourquoi elle ne monte pas avec eux, surtout qu'on va parler des filles après, mais quand on va faire l'état des lieux des filles et on va en parler, il y a un désert côté île qui aurait pu être se transformer en boulevard pour elle, et ça ajoute encore à mon incompréhension de pas la faire monter quand on voit la situation de la scène féminine, donc du coup ouais, c'est la grosse déception pour le coup là. Je sais pas pourquoi
déception.
Ils l'ont pas fait, ils ont forcément une bonne raison, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait.
Ouais. Incompréhension, déception, pas de Nikki Cross. Est-ce qu'elle va avoir un programme solo à NXT? Peut-être. Est-ce que ce sera la surprise lors de la montée officielle de Sanity?
Et voilà,
SmackDown,
c'est peut-être ça,
on l'espère, car comme tu l'as dit, du côté des filles, c'est le désert total. On reparlera de la dernière montée d'NXT après, du coup, la transition est trop belle, puisque ce soir, on a la Carmella Melabration, comme ils l'ont appelé, la célébration donc de la nouvelle championne de SmackDown, Carmella, qu'il faut appeler dorénavant la Princess SmackDown. Elle a battu Charlotte Flair. Lol, elle s'en remet pas. Hein. Elle s'en remet pas d'avoir battu Charlotte Flair, qui avait elle-même battu Asuka. J'avoue, dit comme ça, ça fait un peu chaîne alimentaire.
Ça fait mal. Hein.
Ouais. Okay. Toujours. Alors, le public, c'est pas le public de WrestleMania, mais le public pop bien quand même sur Carmella. Les gens l'aiment bien, hein, finalement, Carmella. C'est vrai qu'elle a plutôt elle donne la patate, elle a la banane. La femme be the woman, tu dois beat the woman. Et elle l'a fait. Elle l'a même très, très bien fait. Charlotte arrive sur le ring qui était rempli d'espèces de peau de léopard. Hein. Elle reconnaît sa défaite. Charlotte, elle est fair play. Elle connaît le dirtiest player of the game, donc... Elle connaît les roublardises, elle a grandi avec son papa Ric Flair qui était assez coutumier du fait, donc se faire cacher la mallette, elle s'y attendait, c'est fait, voilà, maintenant on passe à autre chose, on va de l'avant, il faut passer à la casserole, hein, Carmella, il va falloir assumer maintenant, c'est bien beau de cacher, mais après il faut assumer. Et là, évidemment, on a l'arrivée des Iconics, puisqu'il faut les appeler comme ça. Alors, c'est Iconics avec deux i au début, hein, donc ça,
oui,
ça
attention. Va pas être facile pour le logo
pour,
là.
Pour ouais. le logo, ça va pas être facile là pour le référencement. Qui mime une fois de plus, hein, une Charlotte chouineuse avant de la passer à tabac. Carmella qui s'y met également, et c'est Becky qui arrive. Becky oui. Lynch, enfin. Enfin, Becky.
Je me demandais ce qu'elle foutait la semaine dernière.
Ce qu'elle foutait la semaine dernière, c'est vous n'étiez pas.
Parce qu'elle arrivait très vite en plus, hein.
Ah oui, bah je pense qu'on ouais. l'a mis. Mais elle avait réagi un petit peu là-dessus. Elle s'en était moquée
oui,
un petit
oui,
peu.
Oui, oui, elle s'en était moquée sur Twitter.
Ouais, hein. voilà, effectivement.
Enfin, sur Instagram ou sur Twitter, je oui, sais plus. Elle a fait elle une vidéo assez drôle.
Ouais, ouais, voilà. Donc bon, allez, hein, on va pas.
Tout comme les arbitres, d'ailleurs, qui sont intervenus très rapidement aussi, hein, contrairement à la semaine dernière. Hein.
Voilà. Non, c'est... mais c'est assez fluctuant la rapidité. De...
Non, mais je me revois devant le visionnage de SmackDown là avant-hier et j'étais ah bah j'ai gueulé tout seul. J'ai ah bah putain bah là il y a du monde là, ça va là ah, ben, voilà. on vient vite là. Ouais, là tout de suite ça va mieux. Oui bah d'accord. Bah, c'est trop tard les gars. Hein. Ouais, c'était ouais. la semaine dernière qu'il fallait se bouger le cul. Hein. Ouais.
Exactement. Du coup, à Charlotte, hein, qui s'est fait passer à tabac hein, en se faisant moquer, hein, elle qui a subi le petit tour de magie de passe-passe là des Iconics. Et du coup, on nous book un match. Ça va se régler entre les cordes dans un match que j'ai trouvé assez long et un petit peu ennuyeux, je dois le dire. Charlotte contre Billie Kay. Charlotte qui bat donc Billie Kay en moins de 8 minutes en plaçant sa soumission. Ouais, dans un match on n'a pas vu grand chose vraiment de Billie Kay et puis en plus c'était assez étonnant c'est toujours assez étonnant ces factions qui rapidement se font mettre à mal une fois que ça se règle entre les cordes. Qu'est-ce que tu as pensé là de bon déjà de la célébration de Carmella et de la victoire de Charlotte ou en tout cas la défaite plutôt là du Iconic Duo en tout cas ouais. la matchée.
Ouais, pas fan de ça en effet. Je suis un peu d'accord. C'est comme bon dans une autre, c'était pas vraiment dans une autre mesure quand même quand le Riot Squad, parce que bon le Riot Squad, je préfère largement les Iconics au Riot Squad, mais où le Riot Squad avait assez vite montré ses limites dès que ça a rentré dans le ring en fait. Hein, c'était dévastateur autour du ring, mais alors ouais. par contre en un contre un. Bon.
Bon, j'en profite après, d'ailleurs pour dire Riot Squad. C'est parti ah, oui. et on a récupéré ouais.
Mandy Rose et
Mandy Rose voilà Absolution
qui retrouvent leur maîtresse.
C'est ça. En Vlad
des
méchants.
C'est un échange assez anecdotique mais en effet Vlad des méchants. Ouais. Mais bon à la limite je préfère. Je suis plus content d'avoir Mandy Rose que Liv Morgan par exemple.
Ouais.
Retour
à l'affaire Charlotte.
Voilà, retour à la fin. Oui, donc un peu décevant, même si c'est un poncif, enfin c'est un éternel, un immuable des histoires de catch. Hein. Les méchantes sont plus fortes à plusieurs en trichant que en un contre un contre la championne. Enfin, c'est plus la championne, mais contre la gentille dans le ring. Bon, mais ça arrive un peu vite. Voilà, tout de suite, il y a une Laura est un petit peu écornée. Enfin, des Iconics duo, surtout que Billie Kay, en effet, comme tu dis, n'a pas montré grand chose. À la limite, moi, j'aurais préféré un match un peu plus court. Un peu plus flamboyant et avec une victoire par disqualification par exemple de Charlotte même si pareil ça aussi fait chier les disqualifications, toute la disqualification oui mais là je trouve que quand même ça aurait été un peu plus intelligent parce que du coup bah ouais Billie Kay a déjà perdu, en plus elle a tapé ça fait un peu beaucoup je trouve pour sa première soirée dans le ring à SmackDown, c'est pas terrible. Donc ouais pas super fan. On aurait pu s'en passer assez facilement avec une ficelle de booking ultra standard quoi. Donc
ouais non effectivement je suis d'accord avec toi. Je piche pas parce qu'on va bah, là j'ai revu, j'avais bon espoir et là j'ai les images du Riot Squad justement qui me sont revenues en me disant mais c'est encore pareil, c'est encore une faction qui s'attaque à Charlotte et Charlotte
qui va se faire dépecer
hein. Exactement. On aimerait voir un petit peu autre chose, surtout avec la qualité, on va dire, le potentiel de ces heels. Hein, on aimerait justement un peu plus de roublardise. Bon, voilà, là, c'est un petit carton jaune, on va dire, là sur cette histoire. Et ce n'est pas fini puisque repassage à tabac ensuite. Hein, Carmella et l'Iconic qui passent à tabac Charlotte et Becky puisqu'elles sont en 3 contre 2. Et là, la musique d'Atsuka retentit.
Ah.
Atsuka donc rejoint. Le show bleu, gros hold-up aussi, une fois de plus.
Ah,
joli
là,
trade,
ouais.
Hein, Natalia contre Atsuka.
Natalia contre Atsuka, très joli trade, merci
voilà,
Paige.
Je pense que même sur FIFA ou sur Maiden, t'arrives pas à faire des trades comme ça, des hold-up comme
non, mais
ça.
On va refaire le récap à la fin. On va se rendre compte que c'est Paige et je sais pas ce qu'elle a fait avec Kurt. Hein. Il y a un truc, mais c'est pas possible.
Bah écoute, si tu veux bien chercher, tu l'as le récap, toi. Je sais pas, moi, je sais pas si.
Ouais, ouais,
j'ai
le récap.
Ouais, bah on verra effectivement. On fera ça vite fait à la fin. Et voilà, donc Atsuka qui vient officialiser son arrivée aux cheveux bleus. Bah écoute, on est content. Ça nous paraît naturel. Hein. Elle est la bienvenue, hein, ça.
Oui, elle est plus que la bienvenue. Alors moi, c'est typiquement un échange. Je pensais pas qu'on aurait Asuka sans envoyer genre Becky Lynch par exemple.
Moi, je pensais qu'effectivement Becky Lynch ou Naomi par exemple allait partir.
Ouais, ou Naomi, voilà, en effet, à Raw. Et en fait, non, on garde le trio Charlotte, Becky Lynch, Naomi, tout en récupérant Asuka. C'est assez inespéré. Donc c'est fantastique évidemment comme arrivé, mais et justement ça nous amène à la remarque que j'avais juste avant, c'est que tu te retrouves avec une scène à SmackDown,
ouais,
où genre mais c'est complètement déséquilibré puisque alors j'imagine
quand tu as le face à face des trois contre les trois, tu fais
Tu te dis ouais ça va être compliqué les filles la semaine prochaine là, parce que donc en fait t'as une scène à SmackDown où je pense qu'il va y avoir un turn, c'est pas possible, où il va y avoir quelque chose parce que t'as Charlotte, Asuka, Becky Lynch et Naomi, mais qui a l'air de s'éloigner un petit peu là, qui parce que du coup elle a l'air de rentrer avec son mari là dans des histoires bizarres là. Mais t'as quand même du coup ces quatre là qui sont des top face qui gagnent, enfin Becky Lynch elle gagne pas grand chose, mais ça reste une face quand même avec un autre standing. Et en face, tu vas avoir les Iconics qui du coup ont déjà perdu avec une petite défaite là qui fait un peu mal, et Carmella, ça paye quand même, c'est quand même pas bien lourd. Mm. Donc du coup, t'as trois heels très jeunes quand même, hein, ouais. en termes de catch et même de d'image avec le public face à quatre vétérantes ultra appréciées machin. Donc là, c'est très compliqué. D'où alors on pourra rajouter. Zelina Vega, enfin oui, bah, je sais pas, on va en parler parce que je sais pas si elle va catcher, mais ça reste aussi pareil. Zelina Vega, c'est très jeune.
Ouais, non.
On n'y est pas encore. Donc c'est pour ça que je continue à me dire qu'il y a peut-être Nikki Cross, c'est peut-être pas impossible, mais là pour le moment c'est vrai que c'est terrible là, le déséquilibre quoi.
Ouais, je sais pas, ouais, c'est assez étrange. Là, effectivement, à part un heel turn ou la montée d'une autre de Nikki Cross par exemple, c'est vrai que l'équilibre est totalement, n'est pas bon quoi, et c'est pas bon parce que surtout après ce qu'on vient de nous montrer là avec Charlotte qui a déjà roulé sur Billie Kay, on n'a pas envie de repartir justement dans toute cette histoire qu'il y a eu avec le Riot Squad quoi, qui était un petit peu la même, hein, où t'avais Becky Lynch,
oui,
Naomi,
oui,
et Charlotte qui quasiment se débarrassait chaque semaine de tout ou partie du Riot Squad, et du coup il y avait aucun intérêt quoi, petit à petit on s'ennuyait et c'était juste des chaises musicales. Bon, alors, on va croiser les doigts.
Oui.
Écoute, je rebondis sur ce que tu as dit, puisqu'effectivement, Zelina Vega, bon, c'est pas elle qui monte vraiment, mais...
Non.
On a une petite vignette, alors c'est une vignette selfie, on a eu un peu de ouais, c'était différentes façons d'annoncer les montées. Andrade, Cien, Almas, El Rigolo, le rigolo.
Le rigolo,
l'ancien champion NXT est annoncé pour SmackDown, il arrive, alors... C'est devenu automatique, hein. Tu perds ton titre de champion NXT, paf, tu montes. Et du coup, effectivement, on l'attendait peut-être pas autant que Sanity, mais il était quand même bien placé la semaine dernière dans le SmackDown du lendemain. Et ben non, il arrive au shake-up, gros gavage, là, on va même chercher les champions, l'ancien champion NXT. Côté Raw, il faut leur rendre hommage, ils ont eu quand même l'ancienne championne NXT Ember Moon.
Oui.
Du coup, voilà, on se partage. Voilà. Là, c'est un peu plus équilibré dans le partage des forces. Du coup, voilà, Andrade Cien Almas qui va nous faire un beau heel avec ce magnifique manager, justement, qui a fait les belles heures là, de NXT ces derniers mois. Donc là, on est plutôt ravis là, pour cette montée.
Ah ouais, on est plutôt ravis. Pareil, une montée qu'on avait comme Sanity, qu'on avait... pas prédit, mais en tout cas
pressenti.
Qu'on espérait pressenti la semaine dernière, et donc non, bah ils ont également attendu plus sympa. C'est, j'aime bien moi, il y a un petit côté un peu old school, le petit truc j'annonce, enfin, la petite vignette est sympa, ça fait vraiment Bon, vous me verrez quand vous me verrez. Hein, je suis une superstar, un peu à la The Miz, hein, qui était pas là, pareil, ce soir. J'aime bien, ça colle bien, ça lui évite de s'attirer une belle petite pop d'arrivée et tout. C'est mieux, je trouve, de l'annoncer comme ça, c'est pas mal. Très très hâte. Voilà, il arrive dans un roster en plus qui s'est écrémé et qui a monté en qualité, qui du coup lui promet plein d'affiches super en mid-card là. Je pense qu'il va pouvoir monter tranquillement, faire ses gammes tranquille, enfin faire ses gammes. Il a pas forcément besoin de faire ses gammes, hein. Il est incroyable. Mais voilà, ses gammes bleues dans le main roster, et donc il y a du beau monde pour faire des matchs avec lui. Donc c'est une sacrée arrivée ça.
Ouais. Voilà qui va pouvoir, à moins qu'ils aient des plus gros projets, mais effectivement alimenter la mid card. On va avoir une mid card de qualité là avec
belle
montée. C'est magnifique. On est ravi. Alors, du coup, comme j'ai un peu pris tout dans le désordre, je vais revenir assez tôt dans le show, puisque on a Sin Cara entre les cordes.
Je sais pas du tout. Je pensais que c'était un trade, parce que je savais pas où est-ce qu'il était, lui.
Tu me sors les mots de la bouche. J'étais en train de me dire, mais attends, c'est un trade, mais c'est un trade de Raw ou de 205, ou il était reparti à NXT, peut-être?
On sait pas. Travaillait toujours
à Stamford. Voilà. Sin Cara, on sait pas d'où il vient, mais il est là, il est dans le show bleu, et il affronte ce soir peut-être la plus grosse surprise, hein, en termes de transfert.
C'est le style, c'est le vol.
C'est le style, le vol honteux. T'as envie de
honteux.
C'est ouais, le moi j'avais envie d'excuser. T'as envie de retourner au magasin pour rendre en disant non, je peux pas.
Je suis désolé, je peux pas accepter.
Je peux pas vous voler ça. Vous m'avez pas chopé. J'ai honte. Je vous le rends. On fait comme si de rien ne s'était passé. Bon, non, on plaisante. On va le garder, hein, puisque c'est Samoa Joe, la brute épaisse.
Joe.
Alors, dans le genre, il qui débarque, mais qui a de la pop. Lui se tient là. Après avoir éviscéré Roman Reigns la veille dans une promo, il revient et repromo. Hein, c'est le spécialiste. Hein, ils ont été convaincus par les talents oratoires du Samoan. Il nous explique. Il bat Sin Cara. Hein. Il nous explique après le match. C'est la terre des opportunités. Et là, c'est le vol. En fait, c'est Sin Cara qui accroche la vie d'un
autre. Incroyable.
C'est la terre des opportunités, effectivement. Mais c'est surtout l'endroit où les gens finissent un peu par, tequiliser, quoi. C'est la coulée douce, à se croire un peu qu'on est meilleurs qu'ils ne le sont. Donc, en fait, il vient taper un petit peu dans la fourmilière de SmackDown en disant, voilà, vous êtes tranquille dans vos hamas, là, on va signer vos piña colada. Ils ont profité de mon absence pour se mettre à l'aise. Alors, je viens et je vais tout péter, vos idoles et vos chouchous. Et là, il nous fait la liste de nos idoles et de nos chouchous. Il va écorner Daniel Bryan, il va édenter Randy Orton et émasculer AJ Styles. À peu près ces mots.
C'est ça.
Ça, j'en suis sûr pour le dernier, en tout cas. Mais d'ici là, il a un vrai programme. Attention, voilà. Avec Roman Reigns, et c'est là où ça devient un peu... La promo, l'intensité est bonne, mais on sent que le booking, là, c'est un peu le bordel.
Même pour lui, c'est compliqué à suivre.
Je lui rends hommage parce qu'il a réussi à...
Il n'a pas fait d'erreur,
surtout avec l'histoire de ceinture, puisque explique. Donc, il va... Roman Reigns, donc, il prévoit que Roman Reigns se fasse tuer une fois de plus par Brock Lesnar, pour le plus grand Royal Rumble du monde. J'en mettrai pas ma main à couper, mais... scénario, et que lui, donc, il le finira à Backlash, il finira le boulot à Backlash, sauf si, par le plus grand des hasards, donc, il retrouve la raison, peut-être qu'il va battre Brock Lesnar, on sait jamais, pourquoi pas, et dans ce cas-là, il viendra, alors il aura sa ceinture, alors il expliquait qu'il aura d'ici là, il aura chopé la ceinture intercontinentale.
Oui.
Qu'il aura chopé.
Il a un match à Doha, enfin pas à Doha, à Jeddah.
Ouais. Un Fatal 4-Way pour le IC, le titre intercontinental, et qu'il ira du coup chercher le titre universal, peut-être en mettant en jeu les deux, je ne sais pas, puisqu'il est contre les frontières, hein, lui. Vive la liberté, vive l'Union européenne, vive les flux migratoires, lui il va où il vient. C'est vrai que là, non seulement c'est un gros style, mais en plus le mec il est partout, quoi. Il joue sur tous les tableaux.
C'est ça, c'est que tu récupères un potentiel contender, enfin un contender pour le titre intercontinental et un potentiel contender pour le titre universel. Donc tu te dis, SmackDown pourrait avoir toutes les ceintures
solo. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa comme position qu'il a, et il termine sa promo avec un Believe That des familles. Voilà, entre Samoa, on se comprend. On n'a pas le même maillot, mais on a la même famille. Samoa Joe, alors, grosse promo une fois de plus.
Incroyable.
Et c'est reparti, là. Je crois que tous ceux qui aiment rêver à ces fameux Dream Match, là, je pense que tout le monde a en mouille d'avance, là, à l'idée de voir Joe et AJ Styles et Daniel Bryan.
Nakamura. Et Jeff Hardy, et Shelton Benjamin, et tout, en fait, enfin, ouais, et Sian Almas, et tout.
On va s'arrêter.
C'est vrai que c'est, waouh, alors là, dans le genre surprise totale, c'était assez exceptionnel, parce que c'est vrai qu'ils ont bien joué le coup avec cette histoire de feud avec Roman Reigns et tout, tu te dis, et c'était quasiment, moi, c'est ce que je reprochais, parce que j'aurais reproché à Arrow, si j'avais eu à le chroniquer, c'était qu'au final, l'émission d'hier était une sorte juste de vitrine d'arrivée. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. C'était genre, chaque segment n'était qu'une arrivée, une promo ou un truc. Et en fait, on ne développait aucune storyline. Sauf Roman Reigns contre Samoa Joe. C'est finalement la seule rivalité, peut-être, qu'il y avait en ce moment, qui s'écrivait un petit peu Arrow. Et ben en fait cette rivalité finalement c'est pas du vent, mais en tout cas c'était un écran de fumée pour cette grosse surprise qui est du coup le transfert de Samoa Joe à SmackDown. Donc bon bah là que demander de plus, on a un top heel vraiment extra qui va venir compléter du coup la scène le haut de la carte à SmackDown. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va tous ces affrontements potentiels. Alors moi je suivais pas du tout la TNA, j'ai jamais suivi la TNA, mais paraît-il que là maintenant on se retrouve avec un roster méga old school made in TNA, c'est dommage que du coup Bobby Roode soit parti, parce que sinon on avait quasiment tout ce qui se faisait de mieux à la TNA c'est sur ces X dernières années réunis là sur un seul show là, donc
ouais, bon, alors, c'est peut-être pas cool pour les amoureux de la TNA, mais c'est peut-être un bon coup pour Bobby Roode d'aller voir.
Oui, par contre, clairement. Oui.
Dans le genre, effectivement, qui gagnait à être tradé un peu comme les Good Brothers, ça.
Exactement,
ça se tient là.
Il avait sa place aussi, oui.
Ouais, effectivement, chaud. Alors, moi, justement, j'ai beaucoup aimé la promo, mais je trouve que, l'exercice, il l'a réussi. Mais on aurait pu, alors ça c'est un truc un peu plus général sur le show, on aurait pu faire une promo plus courte ou pour gagner un peu plus de temps pour travailler d'autres arrivées. Bon, après je lâche pas l'affaire sur Sanity, mais
oui.
Voilà, entre le match de Charlotte qui a duré un peu longtemps aussi, là la promo de Joe qui était un petit peu là, il a bien maîtrisé la première moitié, la deuxième moitié il a réussi, mais c'était tellement compliqué à nous. En fait, il essaie de nous faire comprendre exactement ce qui allait se passer, mais clairement, ce pay-per-view, là, il fait chier tout le monde en termes de booking. Le
truc en Arabie Saoudite.
ça fait un peu chier tout le monde, surtout que ça se passe juste après le shake-up. Et clairement, sur le calendrier, là, ils sont pas aidés, quoi. Ils sont mis un peu des bâtons dans les roues. Mais c'est sûr que là, du côté des mecs, en tout cas, on ne manquera pas de heal à l'heure où on vous parle. Contrairement à la division féminine, et à Samoa Joe, c'est du lourd, c'est du costaud. On attend avec impatience qu'il aille émasculer AJ Styles devant tout le monde.
J'ai bien aimé.
Il reste plus grand chose forcément émasculé vu les coups de poing qui se prennent dans les couilles toutes les semaines.
Voilà, il lui reste plus grand chose là. Ouais. Il y a eu un sondage sur www.com. J'étais très surpris, je pensais que c'était une vanne. Il y avait un sondage sur www.com genre qui disait est-ce que pour son prochain match à Backlash, AJ Styles doit porter une coque ou pas ?
Non, ouais. Si. Ah, là. Et bah du coup, AJ Styles, on va en parler puisqu'on arrive à l'heure de notre main event ce soir. Donc AJ Styles et Daniel Bryan affrontent Rusev Day. C'est notre affiche et tu en parlais juste avant, l'inévitable intervention de Nakamura qui et casse les couilles à AJ Styles.
Littéralement et figurativement.
Voilà.
Parlant.
Là, c'était. Je commence vraiment à l'apprécier.
Je pensais pas qu'un truc aussi con pourrait fonctionner, mais si, c'est vrai que ça commence à m'énerver.
Là, il le fait bien. Il le fait avec un tel sourire, un tel vice, un tel plaisir qu'il prend à.
Il est taré.
C'est une fois, mais pas deux, mais pas trois, quoi. Enfin, là, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est son nouveau gimmick, le casseur de couilles. Du coup, bah évidemment, ça nous casse le main event. Et c'est pas fini, puisqu'on a une autre intervention d'un grand gaillard qu'on avait vu un peu plus tôt backstage, et du coup, peut-être qu'on aurait pu éviter de faire cette séquence backstage, même si elle était drôle. C'est Big Cass, qui vient mettre la Big Boot dans la gueule à Daniel Bryan. Et oui, Daniel Bryan, on parlait du Miz, qu'on allait mettre cette storyline peut-être un petit peu dans le frigo en attendant peut-être SummerSlam ou voilà des plus gros moments. Et ben là, ce qui va sûrement occuper Daniel Bryan, c'est un mec qui fait 7 foot. C'est Big Cass qui est de retour. La petite séquence backstage qu'on avait eue avant était, c'est vrai, assez drôle. Daniel Bryan était interviewé backstage et il se retourne et il est face à, non pas des tétons, mais le nombril d'un catcheur. La caméra fait un travelling vers le haut, enfin monte quoi, verticalement, puisqu'on monte verticalement, c'est comme ça que ça marche.
Oui, c'est comme ça que
et
ça
là,
fonctionne.
Et là, on voit Big Cass arriver, puis il regarde Big Cass face à lui, bien droit, il voit personne. Il fait le geste de la main, vous savez qu'est-ce qui se passe, c'est, en fait, c'est qui parle, là, il regarde un peu plus bas, encore plus bas, encore plus bas, et quand tu vas encore plus bas, tu trouves qui? Tu trouves Daniel Bryan. Et du coup, voilà, on nous avait un petit peu teasé déjà l'affrontement. Et donc, incroyable, mais vrai, 2018, une semaine et demie après WrestleMania, SmackDown se conclut sur l'image de Big Cass qui lève le poing au ciel pour annoncer une rivalité face à Daniel Bryan qui est de retour sur le ring. Il faut le voir pour le croire.
Il faut le voir pour le croire, oui, c'est ça, c'est la bonne analyse. Ouais, assez, bon, enfin, du coup, comme tu dis, oui, ça avait vendu la mèche, ce segment backstage, là, qui était pas mal du tout, hein, ce petit segment backstage, très court, Big Cass qui arrive et puis qui dit, ouais, c'est l'expression en anglais est difficile à traduire, mais enfin grosso modo c'est c'était pour ça tout ce bruit, en fait c'était pour cet avorton finalement, tout ce tintouin là pour son retour et tout. J'ai trouvé ça pas mal parce que je me demande si l'angle qu'ils vont adopter à partir de la semaine prochaine, c'est pas justement cette petite réplique fait pas écho au fait que en fait faut se souvenir que quand Daniel Bryan avait été clear pour le catch, en fait, ça intervenait en même temps que le clearing de Big Cass, qui était enfin aussi remis de sa blessure.
Oui.
Mais sauf que lui, forcément, tout le monde s'en foutait. Alors que Daniel Bryan, c'était le retour du Messie, le retour, c'était le second coming de Jésus sur Terre, quoi, vraiment. Et du coup, je me demande si c'est pas un peu ça qu'ils veulent faire.
Espérons, parce que c'est.
Donc,
c'est plutôt,
pourquoi pas.
C'est plutôt bien vu.
Donc c'est pas mal et puis donc voilà, nous avons en effet Big Cass dans le main event entre guillemets hein, de SmackDown. C'est vrai que quand on voit l'arrivée de Big Cass, tu te dis il a un peu remplacé il remplace un peu numériquement Baron Corbin dans le genre du grand costaud.
Si on pouvait ne pas parler de ce douloureux départ.
De ce douloureux départ du Baron. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, tu te dis quand tu vois ça, tu te dis apparemment voilà, il cherchait un grand mec pour le main event pour faire une grosse rivalité avec Daniel Bryan, tu te dis putain. Est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur candidat qui a débuté à Raw la veille? Est-ce qu'ils auraient... Mais bon, alors là, ça aurait été terrible en termes de... On n'aurait pas pu tout style à ce point-là. Mais
McIntyre.
Tu dis Drew McIntyre est quand même et pour du solo, c'est vrai que il avait le profil pour ça. Et à la limite, Big Cass avec Ziggler, il refaisait une sorte de duo un peu. Moi, je me dis pourquoi pas. Mais
d'autant plus que il revient dans les mêmes conditions. Effectivement, il était blessé. Il aurait pu avoir tout à fait le même discours.
Il aurait pu avoir le même discours je pense que le déséquilibre était trop fort parce que si on récupérait Drew McIntyre, c'était pas possible. Mais bon, écoute, du coup, ce sera Big Cass. Moi, ça me va bien. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait en début de show, je trouve que c'est une bonne petite feuille de transition pour Daniel Bryan qui saura faire briller Big Cass comme il se doit, tout en justement donnant, un petit détour sur le chemin du Miz, il faut pas se précipiter. Miss Daniel Bryan, c'est quand même un sacré match et les futurs gros pay-per-view sont encore loin. Donc moi ça me va bien. Donc écoute, c'est surprenant, c'est sûr que c'est pas maintenant on peut se dire il y a déjà peut-être des dents qui grincent, on se dit oh là là, croisons les doigts, est-ce que Big Cass j'espère que Big Cass ne sera pas le Jinder Mahal de 2019 ou un truc comme ça, on peut se dire parce que c'est vrai que là il est propulsé sur le haut de l'affiche directement. On va voir, mais en tout cas voilà, je trouve que c'était plutôt bien foutu et pas mal comme petite rivalité, donc voyons voir tout ça.
Et donc bah voilà, c'est sur cette image incroyable que s'est terminé cet épisode. Alors du coup, si tu veux bien, on va faire le petit inventaire du mercato.
Faisons l'inventaire du mercato
avec les montées également, transferts et montées. Ouais. Et je te propose, alors ça va être un numéro un peu spécial, un peu plus long que d'habitude du coup, mais je te propose de donner vaguement un petit avis si tu en as un sur ces transferts. Alors qui rejoignent Raw. Donc on a Jinder Mahal donc qui quitte SmackDown.
Bon, moi je suis un peu triste, mais je pense qu'il avait fait le tour de la question entre guillemets.
Il avait battu tout le monde. Hein
il avait battu tout
le
monde.
C'est incroyable de dire ça.
Mais... il avait fait le tour, il avait regagné la ceinture US. Voilà, je pense qu'un changement de scène, c'est bien pour Jinder. Donc il part. Je suis triste de le voir partir, mais c'est normal presque, je trouve quand même pas.
Le Riot Squad.
Ça c'est indifférent pour moi. Mandy Rose et Sonya Deville viennent compléter, on va dire numériquement, le trou laissé. Donc bon.
Allez, là c'est peut-être aussi un des gros départs, même si là c'était inévitable. Sami Zayn et Kevin Owens qui ont réussi à dégoter donc un contrat à Raw.
Ah oui, voilà, ouais, c'est vrai que je considérais pas que ça comme un départ parce que c'était acté.
Ouais.
Mais, donc je considère pas vraiment que ce soit un départ, mais bon ça c'est pareil. Enfin, ils étaient en bout de course à SmackDown, ils avaient tout fait donc.
Alors,
c'est tout à fait normal.
Dolph Ziggler.
Ah oui, alors Dolph Ziggler, pour le coup, on peut même le packager avec Bobby Roode.
Dolph Ziggler, Bobby Roode.
Pour moi,
Corbin,
c'est
peut-être même, on pourrait les
peut-être même Baron Corbin. C'est malheureusement ça. Ils tournent en rond. Ils n'arrivaient pas à trouver leur place. Bobby Roode, tout particulièrement, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Là, il va falloir qu'il fasse un truc, sinon c'est foutu, parce que lui, pour le coup, il avait pas fait le tour de la question à SmackDown, il avait fait le tour de rien du tout, en fait. Il avait jamais décollé.
Ouais. C'est un cas assez incroyable.
Du coup, j'espère pour lui, qu'il va savoir se réinventer. Un heel turn lui ferait du bien. Pour le coup, j'aime pas le heel turn salvateur d'habitude, mais lui, pour le coup, je pense que vraiment, il faut. Par contre, Dolph Ziggler et Baron Corbin, j'aime bien le Baron, mais que ce soit lui ou Dolph Ziggler, voilà, je pense que c'est de la mid-card qui pourra se valoir dans n'importe quel show, donc je suis pas forcément super triste de les voir partir. Ouais.
Bon, Natalia, on en a parlé déjà.
Oui,
dans
side.
La scène, ouais, un des styles, hein, évidemment. The Ascension qui nous quitte avec la fashion popo, voilà, ça c'est.
Là pour le coup, tu vois, sur les équipes, je trouve que. L'échange est ouf parce que j'adorais, moi, il me faisait beaucoup rire The Ascension et la Fashion Police, mais enfin ils ont pas d'avenir beaucoup plus haut que vraiment de la low card ou du bad mid card, enfin vraiment c'est genre plutôt des faire-valoir pour des mecs qui veulent aller vers le titre, alors que nous en contrepartie, enfin là pour le coup on récupère The Bar et les Good Brothers qui les Good Brothers peuvent faire mal, tu vois, par exemple je pense qu'avec le bon nouveau coup de pied aux fesses et le bon départ, ils peuvent ça peut être une super équipe pour SmackDown. Donc là pour le coup là, il y a pas photo sur les équipes, c'est assez dingue. Si on rajoute même le fait que on a cassé The American Alpha pour faire de la place.
Ouais,
et que du coup Shelton Benjamin pour moi du coup devient beaucoup plus intéressant là dans la mid-card Hill pour faire briller tous les nouveaux là qui arrivent. La scène tag team c'est renforcé et écrémé à SmackDown de manière vraiment très impressionnante là. Ouais.
Allez, et puis alors on va terminer avec la low card, donc on a Mojo Rawley, ouais. Chad Gable du coup, hein, on en a parlé, Mike Kanellis,
ouais.
Zack Ryder, Voilà, donc ça c'est un petit peu la low-card, c'est comme tu dis, c'est interchangeable, et ouais, évidemment, montée d'NXT, nous avons Drew McIntyre, qui du coup rejoint Dolph Ziggler dans ce qui s'apparente être une si ce n'est une tag team, au moins une alliance.
Sorte d'association un peu à la Shawn Michaels Diesel, là, il y a eu pas mal de comparaisons ça.
Ouais,
c'est vrai qu'il a le... Et bon, si on avait pu intervertir Big Cass avec Drew McIntyre, ça aurait été pas mal. Hein.
Attention à pas faire trop de gourmandise. C'est un des sept péchés capitaux. Et donc, du coup, à SmackDown, on récupère le Miz. C'est parti, là, ça va être tapis rouge pour rivalité incroyable avec Daniel Bryan. La ceinture US hein, autour des hanches de Jeff Hardy, tant qu'à faire. Oui. Samoa Joe, le style de la soirée.
Incroyable.
Qu'est-ce qu'on a d'autre chez les filles? Sonya Deville et Mandy Rose. Bon, bah voilà, numériquement, on se retrouve à l'équilibre. Atsuka, qui est peut-être. Qui va provoquer un déséquilibre, on en a parlé, face et heel. Mais c'est un gros nom, on va pas se priver. Big Cass, qui arrive pas directement dans un gros programme. Alors là, ça, oui, c'est de la low card qui est bien traitée. Après, en fait, il y a même pas vraiment. Le seul low card, c'est Artruth, quoi. C'est Artruth, vu comment vient d'être booké Big Cass, en l'occurrence. Et puis, la fameuse scène tag team, hein, Good Brothers, The Bar, on en a parlé, ses chapeaux. Et puis, la petite montée tranquille de Cien Almas et de Sanity. Vu comme ça, effectivement, il faut pas aussi oublier que, en termes de star power, Rose était déjà bien payé, bien loti. Du coup, c'est vrai que même si sur le transfert, là, ça paraît, quand on fait l'inventaire des transferts, ça paraît totalement déséquilibré. Au final, on va peut-être se retrouver avec un meilleure répartition. Alors, peut-être pas sur dans toutes les divisions, malheureusement, mais en tout cas, dans la division masculine solo, on va se retrouver peut-être avec une meilleure répartition des top stars et des main eventers. C'est peut-être plutôt du côté de la division tag team hein, que ça va un petit peu coincer. Et puis la low card, de toute façon, c'est là pour se prendre les tombées en moins d'une minute. Giscal qui a quitté le studio sans prévenir, ce n'est pas très sympa. Je pense qu'il n'a pas supporté ce hold-up fait par SmackDown. Du coup, je vous rappelle, avant qu'on fasse notre top, notre flop et notre note, que vous pouvez nous retrouver un catch-up, le podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, notamment en direct, mais également, alors que Giscal sonne à la porte, mais également sur iTunes et PodCloud. Pour l'audio, salut Giscal, je vois que tu as mis ton costume en plus.
Je vous ai perdu.
Mais c'est pas grave, t'es sorti par la porte et rentré par la fenêtre. Je disais que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook. Ouh là, j'ai du mal moi ce matin, le décalage horaire, toujours le jet lag, ça va prendre un mois.
Encore.
Je me fais vieux, tu sais, je n'ai plus mes...
Cette semaine, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec le jet lag cette semaine.
Je n'ai plus mes 20 ans. Facebook, Twitter, Catch-up, CDC, l'Instagram aussi. Et du coup, on revient sur le top et le flop. Giscal, pas de problème, t'inquiète pas. Ici, on assure, c'est le supplément SmackDown. On se laisse pas déstabiliser par des petits soucis techniques. Est-ce que tu veux bien partager avec la foule en délire ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Ouais. Moi, ma note, j'avais décidé de mettre 4 sur 5 cette semaine pour ce SmackDown où... Finalement, à part la scène féminine qui m'a pas trop plu par l'écriture, j'ai à peu près tout aimé et j'ai surtout bien aimé ce que j'avais dit en début d'émission, à savoir que j'avais vraiment l'impression que en fait le shake-up n'a pas perturbé le flow, on va dire, de SmackDown qui a continué à se développer en incrustant vraiment le shake-up dans ses storylines et avec les arrivées vraiment. Savamment saupoudré autour des histoires au lieu de faire une sorte d'émission vitrine comme ça avait pu être le cas à Raw. Moi, ça m'avait plus gêné, donc je trouvais que SmackDown c'était pas mal cette semaine. Mon top, ça va être, j'ai envie de dire les résultats de la draft pour nous, mais bon, parce que c'est vraiment, c'est assez incroyable ce qui s'est passé là pour SmackDown.
Peut-être un en particulier ou.
Mais un en particulier, c'est Samoa Joe. C'est vrai que c'est l'arrivée qui me fait le plus saliver parce que Là, on se retrouve avec un mec qui sait tout faire et qui va pouvoir nous faire des matchs de fou là contre Daniel Bryan, contre Nakamura, contre AJ Styles, contre Orton, contre Hardy, contre Shelton, contre tout le monde. Donc ça, contre Charlotte, qui aurait pu être. Enfin, c'est bizarre parce que je trouve que c'est des erreurs vraiment bateaux qui auraient pu être vraiment tellement facilement évitées. Enfin, ça me semblait tellement évident en fait de pas faire un truc comme ça que je vois pas trop l'idée. Ou alors on se prend trop la tête avec The Iconics, peut-être. Mais écoute, voilà, je suis pas très fan,
de
ça.
Non, mais ça restera sûrement de la mid-card. Mais même sans ça, c'est même pas une question.
Mais même sans ça, c'est quand même un peu dommage. La nouvelle saison de SmackDown vient à peine de commencer, qu'on est déjà en train de ternir l'image.
On commence l'histoire et paf, les méchants sont déjà battus, presque.
Voilà, donc c'est un peu dommage. Mais en espérant que la semaine prochaine, on ait la surprise de Nikki Cross qui vienne sauver tout ça. Voilà.
Ok, bah justement, moi, mon flop, c'est Nikki Cross. Alors, on va leur laisser le bénéfice du doute, mais je pense que c'est mal barré, mais pourquoi pas.
On va voir, on sait jamais.
Ouais. Mon top, je vais le donner, écoute, à la petite filouterie de Jeff Hardy, qui revient ni plus connu avec la ceinture US.
Bonjour tout le monde.
Vieux roublard, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment plutôt malin. C'était assez rigolo. Et ma note, je vais donner un 3,75. Effectivement, là, je pense qu'on a mis on a fait le hold-up, hein, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je disais d'ailleurs, pendant que tu étais parti réparer la machine à café, c'est que finalement, autant dans les transferts qu'on fait l'inventaire, l'équilibre, enfin, clairement, SmackDown, on peut s'accorder sur le fait que c'est SmackDown qui remporte la mise.
Ah bah, c'est complètement déséquilibré.
Mais après, le star power du côté de Raw, il était déjà tellement là, peut-être même
c'est ça
trop...
Aussi.
Que du coup, là, on répartit... alors, je parle surtout des divisions solo, et en particulier de la division masculine, hein, où là, on a peut-être un peu mieux réparti les grosses stars, hein, les Samoa Joe, par exemple, tout en gardant les Seth Rollins et compagnie. Donc, voilà, on a peut-être mieux réagencé, donc on a peut-être trouvé une forme d'équilibre à ce niveau-là.
Ce qui est à souligner pour SmackDown, c'est vrai que c'est que on a désengorgé une mid-card qui mine de rien ne faisait plus lever les foules quand même. Là, c'est vrai que on a dit, hein, Corbin, Bobby Roode, Dolph Ziggler, Jinder Mahal, et on remplace ça par Le Miz, Samoa Joe, Jeff Hardy, et d'une certaine manière Shelton Benjamin aussi. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, quoi.
Et voilà, du coup, ce qui conclut le Superstar Shake-Up édition 2018 pour SmackDown. Je te remercie, Giscal, pour ton analyse toujours aussi fine, hein, de ce spécial Mercato.
Merci pour ta présentation, comme toujours.
Et on remercie tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent chaque semaine. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Shake-Up. Qui a gagné, Raw, SmackDown? Quels sont les plus gros coups? Hein, les hold-up, les steals, comme on dit, de ce mercato de la WWE. Partagez votre top, votre flop et votre note. Est-ce que d'après vous, Nikki Cross sera là quand Sanity apparaîtra? On croise les doigts. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de catch. À la semaine prochaine. Salut.
Ciao.